En ce moment, néanmoins, l'arrière-garde était rudement pressée, et quoique messieurs de Guise et de la Trimouille tinssent aussi ferme qu'il était possible de tenir, il est probable qu'il leur eût fallu céder au nombre si un double secours ne leur était arrivé. L'un leur était apporté par l'infatigable Charles VIII, qui, n'ayant plus rien à faire parmi les fuyards, venait de nouveau se rejeter au milieu des combattants, et l'autre par les valets de l'armée, qui, délivrés de l'attaque des Stradiotes et voyant fuir leurs ennemis, accouraient, armés de haches, avec lesquelles ils taillaient le bois pour bâtir leur logis, et qui se jetèrent au milieu des combattants, coupant les jarrets des chevaux et brisant à grands coups les visières des cavaliers démontés. Les Italiens ne purent tenir à ce double choc. La Furia Francese détruisait tous les calculs stratégiques possibles, et depuis près d'un siècle, ils avaient désappris ces luttes sanglantes et acharnées pour les espèces de tournois qu'ils appelaient leur guerre. De sorte que, malgré les efforts de François de Gonzague, à l'arrière-garde aussi, ils tournèrent le dos et prirent la fuite, repensant en grande hâte, et surtout à grande peine, le torrent gonflé encore par la pluie qui avait tombé durant toute la bataille. Quelques-uns étaient d'avis de poursuivre les vaincus, car il y avait un tel désordre dans leur armée que, du champ de bataille dont les Français étaient restés si glorieusement les maîtres, on les voyait fuir dans toutes les directions, encombrant les routes de Parme et de Barchetto. Mais le maréchal de Gier et messieurs de Guise et de la Trimouille, qui avaient assez fait pour ne pas être soupçonnés de reculer devant un danger imaginaire, arrêtèrent cet élan en faisant observer comme ces chevaux étaient si fatigués que c'était s'exposer à perdre l'avantage obtenu que d'essayer de le pousser plus loin. Ce dernier avis fut donc adopté malgré l'opinion de Trivuls, de Camille Vitelli et de Francesco Secco qui voulaient que l'on poursuivît la victoire. Le roi se retira dans un petit village sur la rive gauche du Taro et se mit à l'abri dans une pauvre maison où il se désarma. C'était peut-être de tous les capitaines et de tous les soldats celui qui avait le mieux combattu. Pendant la nuit, le torrent grossit tellement que l'armée italienne, fût-elle remise de sa frayeur, n'aurait pu poursuivre l'armée française. Le roi, qui, après une victoire, ne voulait pas avoir l'air de fuir, demeura toute la journée en bataille et le soir, il alla coucher à Médecène, petit village situé à 1 mille plus bas seulement que le hameau où il s'était reposé après le combat. Mais pendant la nuit, réfléchissant qu'il avait fait assez pour l'honneur de ses armes en battant une armée 4 fois plus forte que la sienne, en lui tuant 3 000 hommes et en l'attendant 1 jour et demi pour lui donner le temps de reprendre sa revanche, il fit, 2 heures avant le jour, ranimer les feux afin que les ennemis le crussent toujours en son cap, et chacun étant monté à cheval sans bruit, toute l'armée française, maintenant à peu près hors de danger, continua sa route vers Borgo San Donnino. Pendant ce temps, le pape était rentré à Rome, où les nouvelles les plus en harmonie avec sa politique ne tardèrent point à arriver. En effet, il apprit que Ferdinand était passé de Sicile en Calabre avec 6 000 volontaires et un nombre considérable de cavaliers et de fantassins espagnols que lui amenait, de la part de Ferdinand et d'Isabelle, le fameux Gonzalve de Cordoue, qui arrivait en Italie avec une réputation de grand capitaine, à laquelle la défaite de Séminard devait porter quelque atteinte. Presque en même temps, la flotte française avait été battue par la flotte aragonaise. Enfin, la bataille du Taro, toute perdue qu'elle était par les confédérés, était encore une victoire pour le pape, puisque son résultat était d'ouvrir un retour vers la France à celui qu'il regardait comme son ennemi le plus mortel. Aussi, comprenant qu'il n'avait plus rien à craindre de lui, il envoya à Charles VIII, qui s'était arrêté un instant à Turin pour secourir Novare, un bref par lequel, en vertu de son autorité pontificale, il lui ordonnait, ainsi qu'à son armée, de sortir d'Italie et de rappeler les troupes qu'il avait encore au royaume de Naples dans un délai de 10 jours, sous peine d'être excommunié et sommé de comparaître devant lui et en personne. Charles VIII répondit, premièrement, qu'il ne comprenait pas comment le pape, chef de la Ligue, lui ordonnait de sortir d'Italie, tandis que les confédérés non seulement lui avaient refusé le passage, mais encore avaient tenté, quoique inutilement, ainsi qu'avait pu l'apprendre sa sainteté, de lui fermer tout retour vers la France. Deuxièmement, que, pour ce qui était de rappeler ses troupes de Naples, il n'était pas assez irréligieux pour le faire, attendu qu'elle n'était entrée dans ce royaume que du consentement et avec la bénédiction de sa sainteté. Troisièmement, que, quant à sa comparution en personne dans le monde chrétien, il s'étonnait extrêmement que le pape l'exigeât à cette heure, puisque 6 semaines auparavant, ayant vivement désiré, à son retour de Naples, s'aboucher avec sa sainteté pour lui donner des marques de son respect et de son obéissance, sa sainteté, au lieu de lui accorder la faveur qu'il demandait, avait à son approche quitté Rome si précipitamment que, quelque diligence qu'il eût faite, il n'avait pu parvenir à le rejoindre. Quant à ce dernier article, cependant, il promettait à sa sainteté, si, de son côté, elle voulait s'engager cette fois à l'attendre, de lui donner la satisfaction qu'elle désirait en retournant à Rome, aussitôt que les affaires qui le rappelaient en son royaume seraient terminées à sa satisfaction. Quelque railleuse fierté qu'il y eut dans cette réponse, Charles VIII n'en fut pas moins bientôt contraint par les circonstances à obéir en partie au bref étrange qu'il avait reçu. En effet, malgré l'arrivée d'un renfort de Suisse qui venait à son secours, il fut forcé, tant sa présence était urgente en France, de faire avec Ludovic Sforza une paix par laquelle il lui cédait Novare, tandis que Gilbert de Montpensier et d'Aubigny, de leur côté, après avoir défendu la Calabre, la Basilicate et Naples, pied à pied, furent enfin réduits, après un siège de 32 jours, à signer, le 20 juillet 1496, la capitulation d'Athènes, qui stipulait la remise à Ferdinand II, roi de Naples, de toutes les places et forteresses de son royaume, royaume, forteresses et places, dont il ne jouit que 3 mois, étant mort d'épuisement le 7 septembre suivant, au château de la Somme, au pied du Vésuve, sans que les soins que lui prodigua sa jeune femme eussent pu réparer le mal que sa beauté avait fait. Son oncle Frédéric lui succéda, et ainsi, depuis 3 ans qu'il était pape, Alexandre avait vu, à mesure qu'il s'affermissait, lui, sur le siège pontifical, 5 rois passer sur le trône de Naples. C'était Ferdinand Ier, Alphonse II, Charles VIII, Ferdinand II et Frédéric. Tous ces tremblements de trône et cette succession rapide de souverains étaient ce qui pouvait arriver de plus avantageux à la fortune d'Alexandre VI, puisque chaque nouveau monarque n'était véritablement roi qu'à la condition qu'il serait revêtu de l'investiture pontificale. Il en résulte qu'en pouvoir et en crédit, Alexandre était le seul qui eût gagné à tous ces changements, puisqu'il avait successivement été non seulement reconnu, malgré ses simonies, comme le chef suprême de l'Église par le duc de Milan, les républiques de Florence et de Venise, qui avaient traité avec lui, mais encore successivement adoré par les 5 rois qui s'étaient succédés sur le trône de Naples. Il pensa donc que le moment était venu de fonder la puissance de sa maison en s'appuyant d'un côté sur le duc de Gandie, qui devait remplir toutes les hautes dignités temporelles, tandis que César Borgia serait appelé à toutes les grandes fonctions ecclésiastiques. Le pape assura ses nouveaux projets en nommant 4 cardinaux espagnols qui, portant à 22 le nombre de ses compatriotes dans le sacré collège, lui assuraient une constante et certaine majorité. La première nécessité de la politique pontificale était de déblayer les environs de Rome de tous ces petits seigneurs qu'on appelait les vicaires de l'Église et qu'Alexandre appelait, lui, les menottes de la papauté. On a vu qu'il avait déjà commencé cette œuvre en suscitant les Orsini contre les Colonna, lorsque l'entreprise de Charles VIII l'avait forcé de réunir toutes les ressources de son esprit et toutes les forces de ses états, comme pour en faire une garde autour de sa propre sûreté. Mais voilà que, dans leur imprudence, les Orsini, les anciens amis du pape, étaient passés à la solde des Français et étaient entrés avec eux dans le royaume de Naples, de sorte que Virginio, l'un des principaux chefs de cette puissante maison, avait été pris pendant la guerre et était captif de Ferdinand II. C'était une occasion que ne pouvait laisser échapper Alexandre. Aussi, après avoir sommé le roi de Naples de ne point relâcher celui que, dès le 1er juin 1496, il avait déclaré rebelle, le 26 octobre suivant, c'est-à-dire dans les premiers jours du règne de Frédéric, qu'il savait lui être tout acquis par le besoin qu'il avait de recevoir l'investiture, il prononça, en consistoire secret, une sentence de confiscation contre Virginio Orsini et toute sa famille. Puis, comme ce n'était pas le tout que de déclarer les biens confisqués, mais qu'il fallait encore en déposséder les propriétaires, il fit des ouvertures aux Colonna, disant que, comme preuve du retour de son amitié pour eux, il les chargeait d'exécuter, sous les ordres de son fils François, duc de Gandie, la sentence rendue contre leurs vieux ennemis, affaiblissant toujours ainsi ses voisins l'un par l'autre, jusqu'à ce qu'ils pussent, sans danger, attaquer et faire disparaître vainqueurs et vaincus. Les Colonna acceptèrent la proposition et le duc de Gandie fut nommé général de l'Église, charge dont son père, revêtu des habits pontificaux, lui remit lui-même les insignes dans l'église de Saint-Pierre de Rome. Les choses marchèrent d'abord comme l'avait espéré Alexandre VI, et, avant la fin de l'année, l'armée pontificale était maîtresse d'un grand nombre de châteaux et de forteresses appartenant aux Orsini. De sorte que ceux-ci se regardaient déjà comme perdus, lorsque Charles VIII, à qui il s'était adressé sans grande espérance, que, préoccupé comme il était de ses propres affaires, il put leur être d'un grand secours, à défaut d'armes et de troupes, leur envoya Charles Orsini, fils de Virginio, qui était prisonnier, et Vitellozzo Vitelli, frère de Camille Vitelli, l'un des trois vaillants condottieri italiens qui s'étaient mis à sa solde et avaient combattu pour lui au passage du Taro. Ces deux capitaines, dont le courage et l'habileté étaient connus, apportaient avec eux une somme d'argent considérable qu'ils tenaient de la libéralité de Charles VIII, de sorte qu'à peine furent-ils à Città del Castello, centre de leur petite souveraineté, et eurent-ils exprimé l'intention de lever un corps de gendarmerie, que les hommes se présentèrent de tous côtés pour s'engager sous leur bannière. Ils eurent donc bientôt rassemblé une petite armée, et comme ils avaient été à même, pendant leur séjour chez les Français, d'étudier la partie de leur organisation militaire par laquelle ils étaient supérieurs aux Italiens, ils appliquèrent ces améliorations à leurs troupes. Elles consistaient surtout dans certains changements faits aux trains d'artillerie, qui les rendaient plus faciles à manœuvrer, et dans la substitution aux armes ordinaires de piques semblables à celles des Suisses pour la forme, mais de deux pieds plus longues. Ces changements faits, Vitellozzo Vitelli exerça pendant 3 ou 4 mois ses hommes à la manœuvre de leurs nouvelles armes, puis lorsqu'il les eut jugés en état de s'en servir avec avantage, ayant obtenu quelques secours des villes de Pérouse, de Todi et de Narni, qui craignaient que leur tour ne vînt après celui des Orsini, comme celui des Orsini était venu après celui des Colonna, il marcha vers Bracciano, dont le duc d'Urbain, qui avait été, en vertu du traité d'alliance que nous avons cité, prêté par les Vénitiens au pape, était occupé à faire le siège. Le général vénitien, ayant appris l'approche de Vitellozzo Vitelli, voulut lui épargner la moitié de la route et marcha au-devant de lui. Les deux armées se rencontrèrent sur le chemin de Soriano et le combat s'engagea à l'instant même. L'armée pontificale avait un corps de 800 Allemands, sur lequel les ducs d'Urbain et de Gandie comptaient surtout, et avec raison, car c'étaient en effet les meilleures troupes du monde. Mais Vitellozzo Vitelli fit attaquer ses soldats d'élite par son infanterie, qui, armée de ses formidables piques, les transperçait sans que ceux-ci, dont les armes étaient de 4 pieds plus courtes, pussent leur rendre les coups qu'ils en recevaient. En même temps, son artillerie légère voltigeait sur les flancs de l'armée, suivant ses mouvements les plus rapides et faisant taire par sa justesse et sa vélocité l'artillerie ennemie. De sorte qu'après une résistance, plus longue encore qu'on eût dû l'attendre d'une armée attaquée par des moyens si supérieurs, les troupes pontificales prirent la fuite, entraînant avec elles vers Ronciglione le duc de Gandie, blessé d'un coup de pique au visage, Fabrice Colonna et le légat. Quant au duc d'Urbain, qui combattait à l'arrière-garde pour soutenir la retraite, il fut pris avec toute l'artillerie et les bagages de l'armée vaincue. Mais ce succès, si grand qu'il fut, n'enfla point l'orgueil de Vitellozzo Vitelli au point de l'aveugler sur sa position. Il comprit que les Orsini et lui étaient trop faibles pour soutenir une pareille guerre, que le petit trésor auquel il devait son armée s'épuiserait bien vite et que son armée disparaîtrait avec lui. Il s'empressa donc de se faire pardonner sa victoire en faisant des propositions qu'il n'eût peut-être pas voulu accepter s'il eût été vaincu. Aussi, ces conditions furent-elles reçues à l'instant même par le pape, qui, dans l'intervalle, avait reçu la nouvelle que Trivulse venait de repasser les Alpes et de rentrer en Italie avec 3000 Suisses, et qui craignait que le général italien ne conduisît l'avant-garde du roi de France. En conséquence, il fut arrêté que les Orsini paieraient 70 000 florins pour les frais de la guerre et que tous les prisonniers seraient échangés de part et d'autre sans rançon, à l'exception du duc d'Urbain. Pour la sûreté du paiement de ces 60 000 florins, les Orsini remirent à titre de gage entre les mains des cardinaux Sforza et Sanseverino les forteresses de Languigliara et de Cervetri. Puis, comme au jour fixé pour le paiement, ils n'avaient point l'argent nécessaire, ils estimèrent le duc d'Urbain, leur prisonnier, à 40 000 ducats, ce qui faisait à peu près la somme, et le passèrent en compte à Alexandre VI, qui, cette fois, rigide observateur des engagements pris, se fait payer par son propre général, pris à son service, la rançon que celui-ci devait à ses ennemis. De son côté, le pape fit remettre à Charles Orsini et à Vitellozzo Vitelli le cadavre de Virginio, à défaut de sa personne. Par une fatalité étrange, le prisonnier était mort, 8 jours avant la signature du traité, de la même maladie, du moins si l'on pouvait juger par analogie, dont était mort le frère de Bajazet. Comme cette paix venait d'être signée, Prosper, Colonna et Gonsalve de Cordoue, que le pape avait demandé à Frédéric, arrivèrent à Rome avec un corps d'armée de troupes napolitaines et espagnoles. Alexandre, qui ne pouvait plus les utiliser contre les Orsini, ne voulant pas avoir à se reprocher de les avoir fait venir inutilement, les occupa à reprendre Ostie. Gonsalve fut récompensé de ce fait d'armes en recevant des mains du pape la Rose d'Or, c'est-à-dire la plus haute distinction que put accorder sa sainteté. Il avait partagé cet honneur avec l'empereur Maximilien, avec le roi de France, avec le doge de Venise et le marquis de Mantoue. Sur ces entrefaites arriva la solennité de l'Assomption à laquelle Gonsalve fut invité à prendre part. Vint en grande pompe au-devant de la cavalerie pontificale et prit place à la gauche du duc de Gandie, qui attirait tous les regards par sa beauté personnelle, rehaussée de tout le luxe qu'il avait jugé à propos de déployer dans cette fête. En effet, il avait une suite de pages et de valets couverts de si magnifiques livrées que rien de ce qu'on avait vu jusqu'alors à Rome, la ville des pompes religieuses, n'était comparable à leur richesse. Tous ces pages et ces valets étaient montés sur des chevaux magnifiques, couverts de caparaçons de velours avec des franges d'argent, au milieu desquelles pendaient, de distance en distance, des sonnettes du même métal. Quant à lui, il était revêtu d'une robe de brocart d'or, portant au cou un fil des plus belles et des plus grosses perles d'Orient qui eussent jamais peut-être appartenu à un prince chrétien, et autour de sa toque, une chaîne d'or garnie de diamants, dont le plus petit valait plus de 20 000 ducats. Cette magnificence ressortait d'autant mieux qu'elle faisait contraste avec la simplicité du costume de César Borgia, dont la robe de pourpre n'admettait aucun ornement. Il en résulta que César, doublement jaloux de son frère, prit une haine nouvelle contre lui des éloges qu'il entendit faire tout le long de la route sur sa bonne mine et sur sa magnificence. Aussi, dès ce moment, le cardinal Valentin eut-il décidé dans son esprit du sort de cet homme qu'il trouvait sans cesse sur le chemin de son orgueil, de son amour et de son ambition. Quant au duc de Gandie, dit l'historien Tommaso, il eut certes grande raison, l'infortuné jeune homme, de laisser, à propos de cette fête, ce souvenir public de sa gentillesse et de sa splendeur, puisque cette pompe fut la dernière qui précéda celle de ses funérailles. De son côté, Lucrèce était venu à Rome sous prétexte de prendre part à cette solennité, mais réellement, comme nous le verrons bientôt, dans le but d'être un nouvel instrument d'ambition entre les mains de son père. Comme le pape ne se contentait point pour son fils d'un vain triomphe d'ostentation et d'orgueil, et que sa guerre avec les Orsini n'avait point produit les résultats qu'il en attendait, il se décida, pour augmenter la fortune de son premier-né, à faire ce qu'il avait, dans son discours, reproché au pape Calixte d'avoir fait pour lui-même, c'est-à-dire à démembrer de l'état ecclésiastique les cités de Bénévent, de Terracine et de Pontecorvo, afin d'en former un duché qui lui serait donné en apanage. Cette proposition fut faite en conséquence en plein consistoire. et comme le collège des cardinaux était tout entier, ainsi que nous l'avons dit à Alexandre VI, elle ne souffrit aucune difficulté. Cette nouvelle faveur accordée à son frère aîné exaspéra César, qui, cependant, recueillant sa part des grâces paternelles, venait d'être nommé légat à l'altéré auprès de Frédéric et qui devait, au nom du pape, lui poser de ses mains la couronne sur la tête.